Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
De l'Orient chrétien s'est épanoui à partir du IVe siècle dans un espace qui recouvre la Géorgie, l'Arménie, la Cappadoce, la Syrie, le Liban, l'ancienne Palestine, l'Égypte copte, la Nubie et l'Éthiopie. Ces territoires où la chrétienté est née bénéficiaient d'un réseau d'églises et de monastères depuis le 5e jusqu'au 15e siècle, exceptionnellement dense et précoce, dont les 9 dixièmes sinon davantage ont disparu. Ces édifices étaient décorés de fresques et de sculptures, ornés d'icônes et d'objets liturgiques, et renfermés d'exceptionnels manuscrits enluminés. Nous sommes ensemble ce matin pour évoquer avec Tania Velman l'Orient chrétien, art et croyance, un livre, je dois dire, impressionnant qui vient de sortir et d'être publié par les éditions Picard. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes née à Sofia en Bulgarie, vous êtes diplômée de l'INALCO et de l'EPHE, l'école pratique des hautes études en 1963. Vous entrez au CNRS l'année suivante et vous avez été aussi co-directeur des cahiers archéologiques entre 1979 et 1996. Et votre très riche bibliographie, je dois dire, montre une dévotion particulière au christianisme oriental par le biais de l'art et de l'architecture.
En effet, oui, comme directeur de recherche au CNRS, j'avais beaucoup de possibilités de missions, de voyages, et j'en ai profité pour trouver des aspects nouveaux de cet art, des aspects qu'on ne connaissait pas, parce que pour les connaître, il fallait avoir une quantité de monuments, et cette quantité de monuments, on n'en dispose que depuis 60 ans, peut-être 50 ans.
Alors vous avez voyagé dans des zones qui étaient compliquées à l'époque, dans l'ancienne Union soviétique, vous vous êtes rendu en Géorgie plusieurs fois.
Oui, j'ai été plusieurs fois en Géorgie, et j'ai été dans le Caucase aussi, parce qu'il y a des villages haut perchés dans le Caucase, et ces villages ont des églises du 11e, 12e, 13e siècle avec des fresques. Et disons que leur accès est difficile, c'est pourquoi elles étaient mal connues, parce qu'il n'y a pas de route pour y aller. Et on y va soit à cheval, soit avec une sorte de jeep russe, dans des lits de rivière, en suivant des lits de rivière. Donc vous voyez, c'est un peu... Mais bon, en Égypte aussi, certains monastères sont en plein désert. Mais c'est plus facile d'accès parce qu'on peut employer, on peut y aller en voiture.
Alors votre ouvrage s'adresse tout de même au grand public, hein. Vous m'avez bien précisé, alors que nous préparions cette émission, que vous n'avez voulu laisser aucun sous-entendu dans votre texte, un texte fort savant, fort bien documenté, en ce sens que vous avez voulu que tout soit compréhensible, que tout soit explicable. Vous ne faites pas partie de ces savants qui laissent comme ça des allusions qui ne peuvent être comprises que par un certain nombre d'initiés.
Non, il faut savoir à qui on s'adresse. Et bien sûr, si je publie dans une revue spécialisée, j'emploierai une autre manière de présenter les choses. Ce n'est pas difficile. Et donc... Le livre est parfaitement accessible à tout le monde.
L'Orient chrétien, art et croyance aux éditions Picard, un livre illustré. Beaucoup de photographies sont de vous. Vous étiez dans tous ces endroits et vous avez photographié les fresques.
Oui, j'ai été dans tous ces endroits. J'ai photographié beaucoup parce que c'est quand même la base du document qu'on va ramener à la maison. Et qu'on va étudier par la suite, parce que sur le moment, quand on voit les peintures ou les sculptures, on a bien quelques idées, bien sûr, mais pas tout. On n'en connaît pas tout. C'est après, en bibliothèque, en recherche, qu'on arrive à bien expliquer.
Avez-vous eu le sentiment, au cours de toutes ces dernières décennies, de documenter un continent perdu, celui du christianisme oriental ?
Perdu, peut-être pas, mais j'ai eu l'impression d'énormes destructions. D'énormes destructions. Cette impression, on l'a moins en Géorgie et en Arménie, parce que ces pays n'ont pas été occupés par les Arabes. Ils ont été occupés par les Perses, par les Mongols plus tard, etc. Ils ont eu leur lot d'occupation, mais ils ont été moins dominés que les autres pays que vous avez énumérés tout à l'heure. Et là, il y a eu d'énormes... Par exemple, en Syrie, il y avait des milliers d'églises. La Syrie était le centre de cette chrétienté. Il y avait Constantinople d'un côté, il y avait Rome, bien sûr, de l'autre côté, et Antioche, Édesse, c'était des villes syriennes de très denses et très fortes activités théologiques. Et il y avait des églises sans fin. Vous savez, en Syrie, il y a eu, c'est le seul pays d'ailleurs, il y a eu aussi les saints perchés sur une colonne.
Les saints stylites, vous pensez à saint Siméon ?
Parce que, voilà, il y avait une énorme ferveur religieuse et connaissance théologique. Mais toutes ces églises sont... Il y en a quelques-unes seulement en Syrie, très peu.
On ne peut pas rester insensible à ce patrimoine historique qui est une forme de patrimoine humain aussi, une mémoire de peuple entier.
Oui, et je vous dirais que l'étude de cet art m'a beaucoup appris sur les hommes qui l'ont fait et pour lesquels il a été fait. Parce que c'est normal d'ailleurs, parce que l'art c'est une expression de ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à apprendre autant de choses sur la mentalité de ces chrétiens d'Orient, sur leur sensibilité qui est particulière. Et ça a été le cas. Et le lecteur pourra aussi me suivre.
Alors on parle de la sensibilité des artistes, de ces compositeurs de fresques au Moyen-Âge, de ces architectes. Vous pensez à des endroits particuliers qui vous ont marqué ?
Non, justement, ce que j'ai trouvé très signifiant, c'est que ce que je vais vous dire tout à l'heure a pu être constaté partout. Donc, c'est un ensemble, une règle. Et j'en conclus qu'il n'y a pas une règle de l'iconographie byzantine, mais deux. Celle de l'Orient et celle de Constantinople. Laquelle Constantinople est suivie par la Russie, par les Balkans, etc. Mais ce qui est très frappant, c'est que cette iconographie différente, elle repose sur une mentalité. Cette mentalité est d'un très grand optimisme. C'est le christianisme jubilatoire. On parle peu du péché. On parle peu du diable. On le représente très peu. Et même dans le jugement dernier, vous trouvez en Orient des jugements derniers sans diable. Vous me direz que c'est étonnant. Non, ce n'est pas étonnant parce qu'ils sont dans ce climat jubilatoire d'être sauvé, d'être pardonné. Et ça, c'est très fort. Et plus vous allez, si vous partez de l'Orient, vous allez vers l'Occident. Vous passez par Constantinople, par Byzance, par l'Empire byzantin. Là, c'est déjà un peu plus... C'est la rationalité, c'est l'équilibre entre le bien, le mal, le diable... Et quand vous arrivez en Occident, je parle du Moyen-Âge naturellement, quand vous arrivez en Occident, vous êtes submergé par les démons qui sont au pied des colonnes, partout dans les églises, qui sont dans les jugements derniers, et aussi vous êtes submergé par la conscience du péché, qui est très forte. Et donc il y a un certain pessimisme en Occident. Et plus vous allez en Orient, plus il se perd... Et plus vous êtes dans la joie, dans la jubilation. Et donc, par exemple, l'abside, c'est l'endroit important de l'Église. À Byzance, on représente la Vierge en l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est l'incarnation. Et parce que Byzance est dans un certain humanisme qui est une conséquence... De la crise qu'ils ont subie et, par exemple, des traités qu'ont écrit les théologiens pour défendre les icônes. Parce qu'il y avait l'iconoclasme qui les bannissait. Et à la suite de cela, à la suite de cet humanisme, l'incarnation est devenue centrale. Donc la Vierge. Tandis qu'en Orient, c'est le Christ dans sa splendeur divine qui est représenté. Il est entouré d'anges, de saints, de la lune et du soleil, c'est-à-dire de l'univers. C'est la gloire, vraiment la gloire. Jusqu'au XIe siècle et après, c'est la même image à laquelle on ajoute au bord de l'image la Vierge et Saint Jean qui prononcent la prière qui demande au Christ de pardonner les péchés, la prière d'intercession, c'est la déicis.
Alors je voulais justement vous demander de nous expliquer un petit peu ce principe de représentation de programme iconographique, parce que vous consacrez donc dans votre livre, Tania Velmans, un chapitre très conséquent sur la déicis, image de l'intercession, du pardon et de la clémence divine.
Exactement, c'est ça. Mais c'est, il faut peut-être souligner que la déicis a été, si je peux dire, inventée, enfin composée à Constantinople. Mais elle a été magnifiée et placée à l'endroit le plus important de l'Église seulement en Orient, c'est-à-dire dans l'abside. Et puis... Il n'y a pas que ça, le schéma est différent.
Alors il faut nous expliquer un petit peu ce schéma pour que nos auditeurs s'y retrouvent.
Alors le schéma byzantin, le schéma classique, c'est le Christ trônant, le Christ en gloire, entouré de part et d'autre, entouré par la Vierge et Saint Jean, qui sont les grands intercesseurs et qui profèrent la prière d'intercession. Mais en Orient, ce n'est pas ça qu'on représente. En Orient, il y a le même Christ en gloire trônant, mais ensuite, on reprend toute l'image qu'on représentait jusqu'au Xe, XIe siècle, c'est-à-dire la vision de Dieu avec les anges, la lune, le soleil, les astres, toute cette splendeur, et on leur ajoute la Vierge et Saint Jean. Si bien qu'ils restent dans cette gloire qui les réconforte et à laquelle ils croient profondément et qui les éblouit aussi. Mais ils ajoutent à cette gloire la clémence. Et là, ils ont tout. Ils ont la gloire, ils ont la clémence, ils ont le pardon des péchés. Et c'est vraiment un christianisme magnifié. Et extrêmement secourable pour l'homme.
Un autre symbole qui frappe pour ceux qui ont eu la chance de visiter des églises en Orient, c'est le symbole de la croix. Sous toutes ses formes. Alors on faisait référence à la période iconoclaste tout à l'heure, au tournant du IXe siècle, où beaucoup d'images ont été remplacées par ce symbole seul de la croix.
En effet, pendant l'iconoclasme, la croix a été beaucoup représentée, et nous en avons des exemples, en Cappadoce par exemple. Mais je crois qu'en Orient, l'intention est un tout petit peu différente. C'est-à-dire que c'est vraiment la croix signe triomphal. Et elle est signe triomphal depuis Constantin le Grand, c'est-à-dire depuis le IVe siècle, parce que lui, il a été converti par une vision de la croix. Et depuis ce moment-là, la croix est considérée comme un signe triomphal. Et comme les Orientaux sont dans le triomphe et dans la jubilation, ils représentent beaucoup la croix, mais le plus souvent, cette croix n'est pas toute seule et toute nue. On voit très fréquemment
Des décors géométriques, des décors floraux, par exemple.
Non, pas tellement ça. Des décors, des espèces végétales qui prennent leurs racines dans la croix et qui en font la croix vivifiante, la croix de vie. Pourquoi la croix de vie? C'est certes la croix du sacrifice aussi, mais à travers le sacrifice, la vie. Et parfois, elle est aussi portée par des anges, par exemple en Géorgie notamment. Elle est soulevée vers le ciel par les anges. Et eux, ils appellent cette représentation, ils ne l'appellent pas la croix, mais l'ascension de la croix. Et dans d'autres cas, cette croix est décorée de joyaux. Et à ce moment, c'est la croix de la seconde venue qui l'annonce, parce que la seconde venue est annoncée par une croix dans le ciel qui est décorée de ces pierres précieuses et qui est une croix de lumière, elle. Et donc toutes ces variantes de la croix sont extrêmement présentes en Orient.
Je voudrais que vous nous expliquiez aussi une partie importante de votre recherche qui concerne quelque chose qui me semble propre à cet Orient chrétien, ce qu'on appelle les cinq cavaliers triomphants.
En effet, c'est très typique et c'est sidérant par certains côtés. Vous me direz que déjà de mettre des saints sur des chevaux et de les armer, c'est déjà un peu audacieux. Mais Byzance l'a fait aussi. Et par conséquent, voilà, c'est entré dans l'iconographie. Mais en Orient, les cinq cavaliers apparaissent 5 à 6 siècles avant qu'ils ne fassent leur apparition dans les églises byzantines qui suivent Constantinople. Pourquoi j'appuie sur le mot « église » Parce qu'il y en a ici et là sur des médailles, sur des petits objets. On peut en trouver avant le XIIe siècle. Mais dans les églises, c'est le XIe, exceptionnellement, et couramment le XIIe siècle pour le périmètre qui suit Constantinople. Tandis qu'en Orient chrétien, dès le VIe siècle, vous avez des saints cavaliers.
Alors quand vous parlez de l'Orient chrétien, donc nous ne sommes plus vraiment au cœur de Constantinople, nous sommes un peu en ses marges, la Syrie, l'Égypte.
Oui, nous sommes dans les pays que vous avez énumérés tout à l'heure. Et là,
Cinq cavaliers alors.
Et alors, il y a ces cavaliers. Et je me suis demandé, naturellement, je me suis posé la question, comment est-il possible qu'ils apparaissent si tôt, pas seulement si tôt, mais en quantité. Alors que à Constantinople, dans les églises balkaniques, par exemple les Russes, ils sont deux ou trois dans une église. Tandis qu'en Orient, vous pouvez en trouver jusqu'à 12. Par exemple, au monastère Saint-Antoine, en Égypte, il y en a 12. Très souvent, vous en trouvez 6 ou 5. 6, par exemple, en Syrie. Et donc, ils sont en avance de 6 siècles. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'à Byzance. Et leur iconographie est différente, ce dont je n'ai pas encore parlé. En partie, c'est-à-dire qu'à Byzance, Saint-Georges tue le dragon, point. Et jamais il ne tue un homme, ni un autre saint cavalier ne tue un homme, parce que ce serait peut-être un peu choquant, même si c'est une incarnation du mal. Tandis qu'en Orient, Saint-Georges tue l'empereur Dioclétien, l'empereur romain, qui a persécuté les chrétiens, et particulièrement les chrétiens d'Orient. Et donc, vous avez une iconographie différente, puisque c'est un homme qui est transpercé par Georges ou par un autre, quelquefois.
Merci Tania Velmans d'être venue jusqu'à nous ce matin.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Je rappelle le titre de votre livre que je recommande chaleureusement, un livre très important, un livre illustré qui est magnifique, qui est unique, L'Orient chrétien, art et croyances aux éditions Picard. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Daniel Schaeffer et je voudrais remercier Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Olivier Dupré pour la réalisation de cette émission Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Thank you.